Bonjour chers amis, on est tellement heureux de vous retrouver cet après-midi. C'est tellement extraordinaire de pouvoir marcher avec un Dieu fidèle. Hier, nous avons fêté nos 44 ans de mariage. Et Dieu a été fidèle avec nous. Vous savez, quand on dit ça, c'est pas parce que tout a été facile. Chacun de nous, on a des épreuves. Chacun de nous, il se passe des choses qui ne nous plaisent pas dans nos vies. Mais on a choisi de louer Dieu, de marcher avec lui. Et il est fidèle. On sert un Dieu extraordinaire. Et je vous garantis qu'on va voir des choses magnifiques sur la France, sur Paris. L'ennemi est fâché. Vous savez ça? L'ennemi est fâché. Il n'est pas d'accord. Mais il a déjà perdu la bataille. Et chacun de nous, nous avons une destinée en Dieu. Dieu nous prépare une destinée. Et si tu n'y es pas encore entré, le chemin que tu poursuis avec lui va t'y conduire. Soyez bénis.
Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Qui est enfant de Dieu cet après-midi? Waouh! Est-ce que vous savez que vos noms étaient inscrits dans le livre de vie? Pas seulement le livre d'une communauté chrétienne, mais dans le livre qui est dans les cieux. Ce livre qui tout à la fin sera ouvert, et tous ceux qui auront leur nom dans ce livre, ils pourront rentrer librement dans le royaume de Dieu. Est-ce que nous sommes meilleurs que les autres êtres humains? Non. Pourquoi pouvons-nous rentrer si librement dans le royaume de Dieu? À cause de Jésus-Christ et de l'œuvre que lui a accomplie en notre faveur. Donc j'aimerais vous encourager. Vous savez, l'espérance chrétienne est quelque chose d'extraordinaire. Ce qui est devant nous, quelles que soient les difficultés du chemin ici sur la terre, ou qui est parfois semé d'embûches, il y a une espérance qui est au-delà de tout ce que nous sommes capables d'imaginer. C'est que le jour vient où nous serons face à face avec notre Seigneur pour toujours. Où il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de contraintes, parce qu'on va être libérés, parce que Dieu va nous prendre auprès de lui. Extraordinaire. C'est au-delà de ce que nous sommes capables d'imaginer. Nous ne pouvons pas imaginer cela avec l'entendement humain, nous essayons de le comprendre partiellement, nous le comprenons très très partiellement, mais c'est une réalité. Et j'aimerais vous encourager et vous rappeler que la foi chrétienne, notre foi dans le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, notre foi, elle repose sur un événement historique. C'est pas juste une croyance. Parfois, certaines personnes qui sont pas engagées dans la foi pensent que le christianisme, ça n'a pas beaucoup d'avenir parce que on croit en un Dieu qu'on n'a jamais vu. Non, on n'a pas vu Dieu. On a vu sa création. Mais sur quoi repose notre foi? Sur quoi repose votre foi? Est-ce que c'est quelque chose de solide ou est-ce que c'est un sol mouvant? Notre foi repose sur quelque chose de très solide. Notre foi repose sur un événement historique. Quel est cet événement historique? C'est que Jésus-Christ est venu dans le monde, Dieu s'est fait homme, Christ est mort sur cette croix, Christ est mis au tombeau, et le troisième jour, le matin de Pâques, que nous allons fêter bientôt, Jésus-Christ est ressuscité, et il est vraiment ressuscité, et il va apparaître aux disciples, aux 12 apôtres, et ensuite Jésus apparaît à plus de 500 personnes à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Lorsque l'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 15, au verset 3, l'apôtre Paul va rappeler ces événements, et l'apôtre Paul va dire, la plupart de ceux qui ont vu Jésus ressuscité sont encore vivants. Et cette histoire-là a coupé l'histoire de l'humanité en deux. Pourquoi sommes-nous en 2017? Parce qu'il y a eu avant Jésus-Christ, et nous sommes en 2017 après Jésus-Christ. Et vous savez quoi? Il reviendra. Après 40 jours, après sa résurrection, il y a eu l'ascension, où Jésus est enlevé au ciel. Les gens sont surpris, ils regardent, puis il y a des anges qui viennent, puis ils disent, pourquoi regardez-vous au ciel? Celui qui est parti reviendra de la même manière. Et parfois on se dit, pourquoi Seigneur, tu mets si longtemps avant de revenir? Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu fait toutes choses parfaites. Parfaites. Même celles que je ne comprends pas, il les fait parfaitement. Et vous êtes aimés de lui. Quelles que soient les circonstances ou les situations auxquelles vous faites face, Dieu vous aime d'un amour infini. Vous êtes la prunelle de ses yeux. Et nous n'avons, notre salut n'est pas méritoire. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons mérité le salut. Nous sommes sauvés parce que nous avons accueilli la grâce de Dieu. Donc j'aimerais vous encourager cet après-midi. Quand Jésus a commencé son ministère dans l'évangile de Marc, très tôt, dès le premier chapitre, on voit Jésus qui chasse des démons et qui guérit des malades. Et je crois plus que jamais, Dieu veut se manifester au travers de guérison et de délivrance. Et au travers de qui Dieu veut faire ce travail? Au travers de quelques spécialistes? Non. Est-ce que vous êtes sauvés? Je vous ai posé la question une fois. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Qu'est-ce qu'il est dit dans Marc 16? Il est dit à la fin du chapitre 16, il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. Est-ce que vous avez cru? Oui, c'est vous, c'est nous, c'est vous mes frères et sœurs, hein, de l'équipe de prière de Christ ressuscité, c'est vous mes frères et sœurs. Si vous êtes des enfants de Dieu, il est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et il y a d'un peu partout, je vois ça dans le corps de Christ, il y a un sentiment qu'on n'a probablement pas tout à fait assez de foi, qu'on n'est pas tout à fait des assez bons chrétiens, puis que probablement que peut-être que le frère Ernest il peut guérir les malades, mais moi je ne suis pas sûr que je suis capable de guérir les malades. Tu n'es pas capable de guérir les malades, je ne suis pas capable de guérir les malades, mais Jésus va guérir les malades au travers de toi, mon frère, ma sœur. Et les choses ne peuvent progresser d'une façon effective et efficace que si le corps de Christ, c'est-à-dire l'ensemble de ceux qui sont des enfants de Dieu, commence à faire cela. J'ai une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. Vous avez assez de foi pour guérir les malades. Amen. C'est un mensonge du diable de dire « Ah, t'as pas encore assez de foi. » Est-ce que... Comment est-ce qu'on a fait pour avoir la foi? Comment est-ce qu'on fait pour avoir la foi? C'est un cadeau de Dieu. Dans Romains 12, au verset 3, il est dit que Dieu nous a donné une mesure de foi. Et Dieu vous a donné une mesure de foi. Et cette foi, il vous faut commencer à la faire travailler, en commençant à régler les choses qui concernent vous-même, ensuite à commencer à servir Dieu. Si vous l'attendez parfait, 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 je suis parfait aux yeux de Dieu. L'Esprit Saint a travaillé mon caractère, ma personnalité, mais est-ce que je peux prétendre que je suis parfaitement parfait? Non! Je suis un être humain, et c'est pour ça qu'on dit, Seigneur, fais-nous grâce, on te demande pardon pour nos fautes, pour nos manquements, mais on veut servir Dieu. Je vous annonce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, qui s'est jamais passé dans cette génération maintenant. Partout, il y a un vent de l'Esprit de Dieu qui est en train de se lever. Actuellement, il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes en Europe qui sont en train de jeûner et de prier pour un réveil en Europe. Nous croyons que actuellement le christianisme en Europe ne se porte pas très bien. Nous perdons actuellement 1 million de personnes qui se détachent du christianisme, mais nous avons la foi, et j'ai la foi que Dieu, et nous prions pour cela, et nous sommes en train de jeûner pour cela, pour dire, Seigneur, nous croyons pour que Dieu va nous donner 100 millions de nouveaux chrétiens en Europe. Et j'aimerais vous encourager à prier pour qu'il y ait un souffle de l'Esprit de Dieu et que la puissance de Dieu puisse se manifester au travers de vous, pas seulement juste au travers des orateurs qui sont devant. Vous n'avez pas besoin d'être orateur. Quand on regarde les actes des apôtres, dans Acte 6, ils ont établi des diacres. Les diacres, ils étaient là pour servir aux tables, pour faire des tâches très simples. Mais quand on voit Philippe, qui était l'un des diacres, qui va commencer à guérir les malades, qui va commencer à faire des choses extraordinaires, vous pouvez le faire. Et je vous encourage. Je vous encourage. Ayez l'audace de poser vos mains sur les malades et dire « Sois guéri dans le nom de Jésus ». Tu as la foi pour le faire. L'une des problématiques à laquelle nous faisons face, vous comme moi, c'est notre côté très humain, c'est le doute, c'est le rationalisme, c'est l'incrédulité. Ça fait partie de notre humanité. Nous devons combattre cela en disant, Seigneur, je le fais, je le ferai encore, et je continuerai à prier pour les malades. Et je crois que cet après-midi, Dieu veut guérir des malades. Mais moi, je ne veux pas voir juste quelques malades guéris, j'aimerais voir des milliers de personnes guéries. J'aimerais voir le miraculeux, je veux voir le miraculeux, parce que la parole de Dieu n'a pas changé. Jésus a donné des ordres à ses disciples. Dans Matthieu 10, au verset 1er, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, je vous donne le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Mais quand on va au verset 8 de Matthieu 10, Jésus va clarifier l'ordre de mission. Il va dire, allez et dites, le royaume de Dieu est proche. Vous savez tous faire ça, n'est-ce pas? Vous avez dit oui à Christ. Encouragez d'autres à accueillir la grâce de Dieu. Encouragez d'autres à se mettre à genoux et dire, Seigneur, je te demande pardon, je suis un pécheur. Et j'aimerais t'accueillir comme le sauveur et le Seigneur de ma vie, Jésus-Christ. Et de cette manière-là, nous devenons des enfants, des fils et des filles de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous reconnaît. Dès le moment où nous avons reconnu l'œuvre de Dieu et accueilli l'œuvre de Christ dans nos vies, nous devenons fils et filles de Dieu. Et Jésus dit ici, allez, dites le royaume de Dieu proche. Donc, il n'y a pas besoin de savoir prêcher. Nous sommes appelés à être des témoins. Sois témoin de ce que tu as vécu. On ne peut pas conduire les autres personnes plus loin que là où on a été. Mais le bout de chemin que tu as fait, tu peux conduire d'autres sur ce bout de chemin. Alors Jésus continue de ce verset 8. Il dit, guérissez les malades. Ça, c'est un problème. Les chrétiens, ils aiment bien prier pour les malades. Ça veut dire qu'on dit à Dieu ce qu'il doit faire, comme s'il ne le savait pas. Et puis si ça ne marche pas, ben c'est qu'il n'a pas fait son travail, lui. Mais il a déjà fait son travail, parce que sur cette croix où Christ a donné sa vie, il a payé pour le péché de l'humanité. Ce péché qui nous a tous habités, parce que nous avions une nature de péché. Mais il a aussi payé pour la guérison des malades sur la même croix. Et Jésus ne dit pas de prier pour les malades, il nous dit de guérir les malades. Ah, mais Seigneur, moi je ne sais pas guérir les malades. Mais tu sais parler, tu sais utiliser ta bouche pour commencer à donner des ordres dans le nom de Jésus. Et comme le disait frère Ernest tout à l'heure, quand on prononce le nom de Jésus, on peut le prononcer Jésus, 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 Jésus. Mais quand tu dis Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et que tu prends conscience que Dieu t'a donné une autorité, alors tu peux parler à la maladie. Et je t'encourage à parler à la maladie. Et vous savez, c'est parfois quand on est le plus faible, quand on a le sentiment qu'on n'y arrivera pas, c'est parfois là que Dieu se manifeste le plus. C'est mon expérience. Je n'avais pas beaucoup d'expérience dans le domaine, il y a 20 ans en arrière. Et 5 jeunes m'ont invité à venir avec eux en Inde pour aller faire de l'évangélisation dans le nord de l'Inde. C'est une des régions où l'évangile de Jésus-Christ n'a presque pas été prêché du tout. Et je ne voulais pas aller avec eux. Et finalement, j'ai dit oui. Et quand j'ai dit oui, j'ai dit mince, j'aurais pas dû dire oui. Alors j'étais dans ma chambre. Vous savez, là où vous devez aller, c'est écrit dans Matthieu 6, 6. Là où vous devez aller pour rencontrer le Seigneur. Matthieu 6, 6, c'est écrit où il faut se rendre pour rencontrer le Seigneur. Donc j'étais là. Puis j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai dit oui? J'aurais pas dû dire oui. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? Et j'entends la question où le Seigneur me dit, tu vas aller faire quoi? J'ai dit, Seigneur, moi je pose les questions. Il m'a dit, non, non, non. C'est moi qui pose les questions et toi tu donnes des réponses. Je dis, Seigneur, tu veux que j'aille faire quoi là-bas? Tu veux des réponses? Il me dit, oui, je veux des réponses. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais 10 jours, j'aimerais voir 50 personnes sauvées qui vont donner leur vie à Christ. Je veux voir 50 personnes guéries et je veux voir 50 personnes qui sont délivrées d'esprits méchants. Mais ça, c'est dans ma chambre où je suis en train de prier, où je suis en train de parler avec Dieu. Et 2 semaines plus tard, j'étais dans le nord de l'Inde, dans un tout petit village. Les jeunes ont fait de l'animation, ils ont chanté, loué Dieu, les gens sont arrivés. Les pasteurs, quelques pasteurs locaux étaient montés du sud de l'Inde dans le nord. Ils ont prêché l'évangile. Et moi j'étais là, assis sur un petit bout de mur, c'était assez sale comme ça. J'étais assis là, puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis venu en Inde? Mais je sentais rien de la présence de Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai dit oui? Mais pourquoi j'ai dit oui? J'ai rien à faire ici. Et le Seigneur m'a dit, tu m'avais dit quoi? Ah, je dis, Seigneur, ça c'était dans ma chambre, c'était très différent. Ici, c'est pas la même chose que dans ma chambre. Dans ma chambre, il semblait qu'il y avait l'onction, j'avais la foi que Dieu allait faire des choses extraordinaires. Et là, j'avais le sentiment que j'étais vide. Vous avez déjà eu ce sentiment d'être vide des fois? Hein? Où on ne ressent rien de la présence de Dieu. Puis j'ai dit, Seigneur, tu veux que je fasse quoi maintenant? Alors je ne sais même pas, je ne suis pas sûr que c'était une parole de connaissance, mais il y a juste deux idées qui sont venues dans ma tête. Puis j'ai dit, ben maintenant, il faut y aller. Hein? Alors je me suis levé, j'ai pris le micro, il me fallait deux traducteurs, un premier en anglais, un deuxième en hindi. J'ai dit, je vais prier pour les gens qui ont des problèmes avec les yeux et avec les oreilles. Et vous savez quoi? Tout le monde est parti et personne n'a demandé la prière. Et moi, j'étais assez content dans le fond. Parce que j'ai dit, avec la forme que j'ai aujourd'hui, ça ne peut pas faire grand-chose. Alors, tout le monde est parti. Nous, on a empaqueté nos affaires dans le bus pour aller visiter une autre région. Et nous étions sur le point de partir. Elles m'ont amené le vieux du village, un homme à gauche, un homme à droite, et l'homme était aveugle. Oh, je dis, Seigneur, même si toi tu étais là, je ne pense pas que tu pourrais le guérir. Il y a tellement peu de présence de Dieu. Alors, je suis allé vers le vieil homme, les deux yeux complètement gris. J'ai posé ma main sur lui, j'ai dit au nom de Jésus, sois guéri, et je suis parti en courant. Et l'homme s'est mis à crier. Je vois de nouveau! Et moi, j'étais aussi effrayé que lui. Je dis, Seigneur, ça c'est bizarre. Des fois, on croit à la prière, hein, mais quand les choses tout à coup se passent, on est surpris. Hein. Et il m'amène un jeune homme qui est sourd, et je fais la même chose, je pose ma main sur lui, je lui dis, sois guéri dans le nom de Jésus, je suis parti. Et le jeune homme commence à entendre. Et les jeunes qui étaient avec moi ont commencé à me regarder bizarrement, ils ont dit, Werner, on ne savait pas que tu savais faire des choses comme ça. J'ai dit, soyez rassurés, moi non plus, je ne savais pas. Alors j'ai dit, dans le village suivant, ils étaient 5 jeunes plus moi, j'ai dit, dans le village suivant, vous allez faire l'animation, on va laisser les pasteurs qui savent leur langue prêcher l'évangile, et puis ensuite on va prier pour les malades. Et puis on va chasser les démons, deux par deux. Comme les disciples, Jésus les a envoyés deux par deux. J'ai dit, on va commencer à le faire. Et on a vu des choses qui nous ont totalement dépassés. Toucher les gens, ils étaient instantanément guéris. Jamais vu ça avant. Je ne l'ai plus jamais vu dans cette intensité-là depuis. Et de là est née aujourd'hui une mission. Et vous savez ce qu'ils ont fait dans cette partie du monde où il y a point de chrétiens? Aujourd'hui, ils ont implanté 30 000 nouvelles communautés chrétiennes dans cette partie du monde. Et la visée, c'est 100 000 nouvelles communautés pour 2030. Et je pense qu'ils vont y arriver. Parce qu'ils ont un tel feu pour servir Dieu. Donc j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, pas seulement à recevoir, à demander la prière. Seigneur, donne-moi un tout petit peu. Commencez à devenir des éléments qui produisent et qui communiquent la présence de Dieu. Dans votre entourage. Et quand c'est pour vous-même, commencez à taper du pied, à prendre autorité sur le diable. Jésus dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » L'ennemi essaye de faire tout ce qu'il peut pour t'arrêter, pour te faire peur, pour te retenir, pour te dire que tu es nul, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas capable. Si tu l'écoutes, tu es disqualifié. Mais si tu te redresses en disant, je suis un enfant de Dieu, et je vais commencer à marcher pour mon Dieu, et je vais commencer à servir Dieu, et je vais commencer à guérir les malades, et je vais commencer à chasser les démons, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous dis que le monde des ténèbres va trembler. Et l'ennemi va essayer de faire toutes sortes de choses pour vous arrêter, mais si tu es déterminé, il n'y a rien ni personne qui peut t'arrêter, mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont une détermination et qui sont prêts à tout pour lui. Et j'aimerais vous encourager à être ces hommes et ces femmes qui sont prêts à se lever pour dire, Seigneur, nous allons faire l'œuvre de Dieu. Nous allons être tes témoins dans ce monde pour que l'évangile de Jésus-Christ, pour que le monde sache qu'il y a un Dieu et que c'est pas juste un Dieu religieux, mais que c'est un Dieu qui guérit, c'est un Dieu qui délivre, c'est un Dieu qui sauve, c'est un Dieu qui vient nous habiter par le Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous et qu'il fait de nos corps son temple. Amen. Alléluia! Gloire à Dieu! Il est vivant! Il est au milieu de nous cet après-midi. J'aimerais vous enseigner, et je vais l'exercer avec vous quelques instants, j'aimerais enseigner quelques instants sur l'aspect de la délivrance. Comment on chasse les démons? Il faut comprendre un peu comment le monde spirituel fonctionne. Vous savez, quand on parle avec les gens qui ne sont pas chrétiens, ils disent, mais si Dieu il est bon, pourquoi il y a tant de problèmes dans le monde? Pourquoi il y a des guerres? Pourquoi il y a des gens qui ont faim? Pourquoi le diable est en train d'essayer de détruire l'humanité? bien je dis aux gens, c'est parce que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne le monde spirituel. Nous sommes confrontés à des réalités invisibles de Dieu, mais aussi à des réalités invisibles du monde qui est opposé à Dieu. Et c'est important de comprendre que quand Christ est venu dans le monde, sur cette croix où il a donné sa vie pour l'humanité, il a une victoire sur l'ennemi. Il a dépouillé les autorités, les dominations, il a triomphé d'elles par la croix. Mais cette victoire de Jésus, elle n'est pas encore appliquée d'une façon globale. Le diable a un droit sur la planète Terre. Comment c'est ça? Au travers des Écritures, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, à la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 3, et puis quand il sort de l'eau, il y a cette voix de Dieu le Père qui se fait entendre, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Saint-Esprit va descendre sur lui à ce moment-là. Et le Saint-Esprit va le conduire dans le désert où Jésus va aller jeûner pendant 40 jours. Et après 40 jours, Satan va venir le tenter de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Et l'une des choses que Satan dit à Jésus, il lui montre tous les royaumes de la terre. Et lui dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne ces royaumes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un certain droit légal. Alors Jésus a une victoire. Et la victoire de Jésus, quand Christ instaurera son règne, parce que jusqu'à aujourd'hui, le christianisme et les chrétiens prient le Notre Père, et quand nous prions Notre Père, nous disons que ton règne vienne. Et son règne viendra. Et quand il sera venu, on pourra arrêter de faire cette prière-là. Pour l'instant, il faut continuer à la faire. Mais Christ viendra instaurer son règne. Christ viendra instaurer son règne. Mais pour l'instant, jusqu'au moment où Christ instaure son règne, Dieu a donné l'autorité à son corps, à l'Église, à ses enfants, c'est-à-dire à vous et à moi. Il nous a donné une autorité pour chasser les démons. Vous êtes censé pouvoir libérer des gens que l'ennemi tient sous l'oppression, mais il faut comprendre certain nombre de principes, comment ça fonctionne. Donc je vais enseigner quelques instants sur ce sujet-là. Dans Jean 10:10, l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, je vois que beaucoup de gens prennent des notes, j'aimerais vous féliciter pour cela. De prendre les notes, au moins des références, vous ne pouvez pas retenir tout ce que je dis, mais au moins juste prendre le nom des références, parce que ça vous permet de les relire, de regarder dans la parole de Dieu. Jean 10:10, qu'est-ce que Jésus affirme? Il dit, le voleur est venu pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais moi je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. La vie en abondance! Est-ce que vous voulez cette vie abondante? Dieu désire vous la donner, mais il faut apprendre à marcher, il faut apprendre à traverser les obstacles avec détermination, en sachant que lui est avec nous. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin. Il est avec vous, mes frères et sœurs. Il est avec vous. Donc Jésus dit, mais clairement, l'ennemi, les projets de l'ennemi n'ont pas changé. Quand on va dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8, il est dit pourquoi Jésus-Christ est venu. Il est dit que Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. La maladie, l'oppression, le tourment, le chagrin, la tristesse. Tout l'ennemi essaie de faire tout ce qu'il peut pour essayer de nous détruire et de nous maintenir à terre. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons la victoire dans le nom qui est au-dessus de tous les noms, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans Jacques 4, l'apôtre Jacques, 4, Jacques, il dit ceci, dans chapitre 4 au verset 7, Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu. C'est quoi de se soumettre à Dieu? C'est dire, Seigneur, je reconnais ton autorité en dessus de ma vie. Se soumettre à Dieu. Moi, je vous encourage, dans la mesure où vous pouvez, et vous, frères et sœurs catholiques, vous faites ça peut-être même plus que dans nos milieux à nous, moi, je vous encourage, pas besoin de le faire longtemps, mais des fois juste de ployer le genou devant le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de le faire maintenant. Mais de dire, Seigneur Jésus, je me soumets à ton autorité. Je veux t'adorer. Moi, je fais ça chaque matin dans ma chambre.
un petit moment où je m'incline pour dire, Seigneur, je me soumets à ton autorité. Je m'incline parce que je veux t'adorer, toi le Dieu vivant. Et je veux te remercier, je le remercie pour une ou deux choses. Et je lui dis maintenant, je me recommande à toi pour cette journée. Et ensuite, je me lève, et quand je me lève, je commence à prier et je commence à mener le combat spirituel. Jésus dit, soumettez-vous à Dieu, dit l'apôtre Jacques. Jacques 4, 7, je suis toujours dans ce texte-là. Jacques 4, 7, il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il s'enfuira loin de vous. Comment est-ce qu'on résiste au diable? Il y a différentes manières de résister au diable. L'une, c'est de lui résister en priant, en prenant autorité dans le nom de Jésus, en disant, diable, monsieur le diable, je te résiste au nom de Jésus, tu t'en vas, tu lâches ton emprise sur mes enfants, tu lâches ton emprise sur mes biens, tu lâches ton emprise sur tout ce qui se met en travers de ma route, parce que je prends autorité et j'exerce l'autorité. Mais il y a une autre manière de résister au diable, et parfois, il faut éviter une chose, ne faites pas la guerre perpétuelle avec l'ennemi. Parce qu'il aimerait nous entraîner dans une guerre permanente. Et si on fait ça, on va perdre notre énergie juste en se bagarrant contre lui. Donc il y a une autre manière de résister au diable, selon ce texte de Jacques 4, 7. L'autre manière, c'est une manière que le roi David nous enseignait dans le livre de Samuel, mais c'est repris dans le psaume 18 au verset 4. Qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 18 au verset 4? Il est dit, c'est un psaume de David. David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Et moi, quand l'ennemi, il se met sur ma route, le plus souvent, intérieurement, parfois on peut le faire à haute voix, parce qu'on est seul dans sa voiture, ou parce qu'on est à un endroit où on peut s'exprimer à haute voix, mais si je suis avec du monde, intérieurement, le plus souvent, quand l'ennemi se met sur ma route, je dis gloire à Dieu. Et je détourne mes regards de lui, et je les tourne vers mon Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Loue Dieu. Loue Dieu. Parce que l'ennemi aimerait te détourner de Dieu pour t'attirer ton attention. Elle ne te laisse pas trop emmener. Et il y a longtemps que j'ai dit au diable, j'ai dit, quand on rentre en guerre, c'est pas toi qui déclenche la guerre, c'est moi qui déclenche la guerre. Si tu veux m'attaquer, je vais louer Dieu. Mais quand je suis seul à seul dans ma chambre et que je prie, parfois, je me dresse contre lui avec beaucoup de force et d'énergie. Et parfois je dis, diable, dans le nom de Jésus, je viens contre toi, non seulement juste pour ma propre vie, mais je viens contre toi pour mes frères et sœurs, je viens contre toi sur mon pays, je viens contre toi sur les nations, et je prie que le diable dégage du deuxième ciel pour que la gloire de Dieu puisse de nouveau se manifester avec efficacité. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. J'aimerais vous poser une question. Vous avez besoin de vous répondre à vous-même. Sur une échelle de 1 à 10, où en êtes-vous dans votre soumission à Dieu? Juste pour vous-même. Honnêtement, intérieur, vous avez pas, je ne vais pas vous piéger, je vous demande juste de faire une réflexion intérieure. Dans votre soumission à Dieu, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes où? Pourquoi je pose cette question? Parce que dans l'échelle de 1 à 10, pour résister au diable, vous serez exactement sur le même niveau. Si dans votre soumission à Dieu, vous êtes à 8, ce qui est pour moi bien, parce que personne ne peut prétendre que je suis soumis à 100% à Dieu, je ne fais jamais point d'erreur. Mais si vous avez une soumission à Christ qui est forte, vous aurez une capacité forte pour résister au diable. Si votre soumission à Dieu est faible et médiocre, vous aurez très peu de force pour résister au diable. Ces deux choses marchent directement ensemble. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Moi, je suis toujours surpris de voir les chrétiens, ils viennent me voir, ils me disent « Pasteur, le diable est après nous ?» Puis je leur dis « Bien alors ?» C'est une chose normale. Vous êtes censé, capable de lui résister. Vous comprenez? Le diable, il va vous attaquer. C'est normal. Résistez-lui. Et quand on résiste au diable, eh bien, on devient un peu plus fort. Parce que si, vous savez, la foi, et puis cette énergie, Dieu a mis dans chaque être humain. Il y a de temps en temps où on a besoin de pousser un cri, hein. Alors, le plus souvent, on le fait contre son conjoint, ou contre ses enfants, ou contre ses parents, puis on est rebelle, puis on gueule, parce qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est pas là que vous devez vous fâcher. Fâchez-vous contre le vrai ennemi. Résistez-lui. En commençant pour vos propres vies. En commençant pour vos propres vies. Puis peut-être que tu as besoin de te délivrer toi-même de certaines choses. Va dans ta chambre. Matthieu 6, 6. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, et Dieu qui est là dans le lieu secret.
Parle avec ton Dieu. Et puis, ordonne à certaines choses qui te tourmentent, certaines choses qui te tiennent captif, qui te tiennent prisonnier, peut-être depuis ton enfance. Puis on t'a dit, mais c'est comme ça, parce que t'as hérité ça de ton papa, puis ta maman, puis ton grand-père, puis ta grand-mère. Non. Il y a des choses qui sont liées à des esprits méchants et parfois on ne le sait même pas. Moi, j'étais retenu captif par certaines choses. C'est quand j'ai été délivré que j'ai vu, que j'ai pris conscience que j'étais captif. Et mon épouse, pareillement. Nous avons 4 enfants. Sur les 4, on a chassé des esprits méchants. Parce qu'il y a des choses qui suivent les générations et qui cherchent toujours à nous tourmenter jusqu'au moment où on se positionne, où on dit maintenant, diable, c'est terminé. Je veux marcher avec Dieu. Je soumets entièrement ma vie à Christ. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, au verset 8, l'apôtre Pierre dit la chose suivante. Il dit, le diable est comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer. Vous avez déjà rencontré un lion rugissant? Pierre l'identifie et il dit, le diable, il dit pas que c'est un lion, il dit c'est comme un lion rugissant qui cherche à vous effrayer. Ça fait peur, hein? Si ce soir que vous rentrez, vous croisez un lion sur la route, qui rugit, peut-être qu'on va faire aux culottes, hein? Mais qu'est-ce qu'il ajoute, l'apôtre Pierre? Il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Commence pas à t'enfuir. Résiste-lui avec la foi ferme. Positionne-toi. Invoque le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et résiste-lui. Et ne bouge pas de là où tu es. Ne bouge pas de là où tu es. Et va contre lui au nom de l'Éternel des armées. Oui, oui, on a vraiment un ennemi, un vrai ennemi, d'ailleurs qui cherche à tourmenter l'humanité, mais nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu nous a donné une autorité, et si nous ne l'utilisons pas, alors tout ça ne sert pas à grand-chose, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sauvé. Mais l'objectif de Dieu, c'est pas seulement que tu sois juste sauvé, l'objectif de Dieu, c'est que tu sois un instrument dans la main de Dieu, c'est que tu puisses faire l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul parle à Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 1er, versets 18 et 19. L'apôtre Paul dit à Timothée, d'après les prophéties que tu as reçues, tu dois rentrer maintenant et tu dois combattre le bon combat. Et pour combattre le bon combat, tu as besoin de 2 choses. Tu as besoin de la foi et tu as besoin d'une bonne conscience. Et l'apôtre Paul de continuer en disant, quelques-uns n'ont pas prêté attention à leur conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Quand j'ai médité sur ce texte, Dieu m'a dit, tu vois, si ta conscience elle est en ordre avec Dieu, et on peut mettre ses affaires en ordre avec Dieu. Si tu as manqué, si tu t'es fâché ce matin, si tu as crié sur tes enfants, ou si tu étais rebelle avec quelqu'un, etc., tu peux mettre les choses en ordre avec Dieu. Mais si tu les mets pas en ordre, ta foi va devenir fragile. Et il dit à Timothée, tu as besoin de la foi et une bonne conscience, mais fais attention à ta conscience. Parce que certaines personnes n'ont pas pris attention à leur conscience, ils continuent à pécher volontairement, et tout à coup, c'est comme s'ils n'arrivent plus à capter la foi. Ils disent, je crois que j'ai perdu la foi. Ce qui n'est pas vraiment vrai. Mais nous devons veiller à avoir une bonne conscience. Comment est-ce qu'on a une bonne conscience? Quand on va régulièrement devant Dieu et qu'on reconnaît ce que nous sommes, ni plus ni moins. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, au verset 21, il est dit que Jésus s'est rendu à Capernaum, et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés par la doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Comment les esprits méchants rentrent dans un être humain? Comment est-ce qu'ils rentrent? Il y a différents chemins par lesquels les esprits méchants cherchent à venir nous perturber. Le premier, le plus commun, c'est probablement, nous avons tous hérité des bonnes choses de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, et je dis par rapport à notre génétique, hein, et les bonnes choses sans lesquelles vous seriez même pas là, mes frères et sœurs, nous sommes héritiers de bonnes choses, mais nos parents, nos grands-parents, il s'agit pas de faire leur procès aujourd'hui, ça nous appartient pas,
mais il y a aussi des choses qui suivent d'une génération à l'autre. Et si mes parents ou mes grands-parents ont touché à des choses occultes, l'ennemi aura des choses, aura un droit légal de venir frapper la lignée aussi longtemps qu'on stoppe pas cette malédiction. Donc il y a des malédictions qui suivent les générations, et j'aimerais vous encourager, à un moment donné de votre vie, on va le faire ensemble cet après-midi, à se positionner et à dire « je me délie de tout mauvais héritage hérité de mes pères et de mes mères ». Notre fille, notre dernière fille, nous avons 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, nous avons 10 petits-enfants. La dernière de notre fille, elle est venue un jour en criant, en disant « papa, maman, j'ai besoin d'être délivré, je suis agressé par l'esprit d'une grand-mère du côté maternel qui rendait les gens folles, les gens fous autour d'elle ». Et notre fille a pris conscience à un moment donné en disant « c'est le même esprit qui cherche en train de m'envahir ». Et lorsque nous avons prié pour elle, elle a hurlé avec violence. Cet esprit s'est manifesté et plusieurs fois on a dû prier pour elle, pour qu'elle soit totalement libérée de cela. Il y a des choses qui suivent les générations. Et parfois on dit « ah mais ça c'est ma personnalité, moi je suis comme ça ». Les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont colériques, qui crient dans les maisons. Quand on leur dit « mais c'est pas bien de crier », ils disent « oui mais moi je suis comme ça ». Si on me dit quelque chose qui me contrarie, je m'énerve et puis je gueule. Mais ça c'est un esprit de colère. C'est pas ton identité, etc., etc., on pourrait poursuivre. Donc, je crois qu'il y a des choses, et des moments donnés, il faut dire, Seigneur, non, je veux pas juste avoir l'apparence d'un chrétien, et puis je crois que vous l'êtes vraiment, hein, ça, je remets pas ça en doute du tout, mais je crois qu'à un moment donné, il faut savoir reconnaître, puis dire, Seigneur, ça, dans ma vie, c'est pas juste, et c'est pas normal, et je le veux plus. Moi, j'ai vu des choses dans ma famille, d'une manière générale, je rends grâce à Dieu, j'ai des bons parents, mais j'ai vu certaines choses qui n'étaient pas justes. Depuis enfant, je l'ai vu. J'ai dit, ça, c'est pas normal, ça ne va pas être comme ça. Et quand j'ai découvert cette réalité-là, je me suis positionné. Et je dis, Seigneur, je prends autorité. Cet esprit-là, je ne l'aurai jamais dans ma vie. Et je ne lui permettrai jamais de me dominer, parce que je me soumets à toi, et je prends autorité, et je me délie de cette malédiction qui est liée à mes ancêtres, au nom de Jésus. Et mon épouse a fait la même chose par rapport à sa famille. Donc les esprits méchants rentrent au travers d'héritages ancestraux qui suivent les générations. Les esprits méchants rentrent si on touche à certains nombres de choses. Bien sûr, au travers d'une vie de péché, si quelqu'un vit dans l'adultère, etc., puis qu'il pense que c'est normal, imaginez-vous pas que l'ennemi va vous laisser tranquille. Il va vous tourmenter. Au travers des paroles de malédiction que vous avez parfois proférées vous-même sur votre propre vie, en disant « je suis bête, je suis stupide, j'y arriverai jamais », ne dites pas des choses comme ça. Vous allez donner des droits légaux à l'ennemi. Quand les parents se fâchent avec les enfants parce que les enfants sont rebelles, parce qu'il y a la tourmente dans la maison, on dit parfois des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Il faut se délier de ces choses-là. Et ensuite, il faut discerner quels sont les esprits qui sont là. Et il faut pas faire du superficiel. Il y a un moment donné de sa vie, il faut vider le sac. Pas juste dire pardon, mais vider le sac. De dire, Seigneur, j'ai péché là, puis j'ai péché là, ça j'ai fait, puis c'est pas juste, et je te demande pardon pour ça, puis je te demande pardon pour ça aussi. Et puis ça, c'est toi là, j'ai dérobé quelque chose qui ne m'appartenait pas, je te demande pardon et je vais restituer. Pas juste pardon, puis je continue la même chose. Vous aurez une vie stérile spirituellement si vous faites ça. Mais dire, Seigneur, je veux que les choses changent en profondeur. Et parfois, on n'arrive pas à tout débarrasser juste avec une seule prière, puis tout est réglé. Il faut faire les choses d'une façon structurée, sans tomber dans le piège, ne passez pas toute votre vie à chasser le diable de votre propre vie, hein. Sinon, vous allez perdre votre temps. Il y a des temps, il y a des saisons. Vous savez, à moi, avant que je sois pasteur, j'étais fermier. Il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons pour semer, il y a des saisons pour récolter. Vous pouvez pas faire tout le temps que de semer ou tout le temps que de récolter. Ça ne marche pas comme ça. Et nos vies, c'est pareil. Il y a des saisons. Donc, il y a des saisons où il faut prendre autorité et dire, Seigneur, aujourd'hui, je commence à régler ma vie en profondeur. Il y a des choses qui ne sont pas selon toi. Il y a des choses avec lesquelles je me bagarre. Peut-être tu demandes pardon déjà pour la 1001e fois pour la même chose. Et puis dire, Seigneur, je veux pas arrêter de demander pardon. Je veux être délivré de ce péché. Jésus est appelé sauveur. Pourquoi? Pourquoi Jésus est appelé sauveur? Répondez-moi. Pourquoi il est appelé sauveur? De quoi est-ce, je vais poser la question différemment. De quoi voulez-vous être sauvé? Du péché. De quoi voulez-vous être sauvé? Osez dire, vous avez droit à l'erreur. Du mauvais, de la mort éternelle. Je pense que beaucoup de chrétiens veulent être sauvés de la mort éternelle. Mais l'annonciation, relisez, début de l'évangile de Luc, l'annonciation de la venue du Messie, du Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui sauve son peuple de ses péchés. C'est ça l'annonciation. Il nous sauve du péché. Et le fait qu'on ait sauvé nos péchés, on est sauvé de la condamnation éternelle, on est sauvé de l'enfer. Mais en premier, il nous sauve nos péchés. Et beaucoup de chrétiens, ils veulent juste être pardonnés de leurs péchés, mais ne veulent pas être sauvés de leurs péchés. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas vraiment être délivrés de leurs péchés. Puis parfois, on ne sait pas comment. Nous, on a vécu pendant des années. Personne ne nous a enseigné. Bon, on essaie de se débrouiller, pas demander pardon, puis recommencer, puis demander encore pardon, puis recommencer, puis demander encore pardon, puis recommencer. Puis un jour, le Seigneur m'a dit, tu me fatigues avec tes demandes de pardon. Je dis, Seigneur, je veux bien que ça change, mais je ne sais pas comment faire. Alors, il faut que tu m'aides. Puis le Seigneur m'a montré ce que je vais faire. Et quand je l'ai obéi, ça a changé. Faut obéir à Dieu, mes frères et sœurs. Obéissez à ce qu'il vous dit à vous. Comment Dieu vous parle? Dieu nous parle au travers des Écritures. Je vous encourage à la lire d'une façon régulière. Il y a des jours où ça vous parle, il y a des jours où ça vous parle moins. Continuez à lire les Écritures. Vous aurez de la révélation au travers de l'Écriture. Mais Dieu vous parle aussi directement dans vos pensées par le Saint-Esprit. Et quand Dieu vous montre quelque chose, habituellement, il le répète plusieurs fois, et habituellement, il y a comme un assentiment au niveau de votre cœur. Et là, vous faites ce qu'il vous dit. Des fois, on n'aime pas parce qu'il y a une bagarre à l'intérieur de nous, êtres humains, entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Est-ce qu'il y en a qui comprennent de quoi je parle? La guerre intérieure entre les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Et l'apôtre Paul dit, dans Galates 5, il dit les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, ils sont opposés l'un à l'autre. Les désirs de la chair t'attirent dans une direction, les désirs de l'esprit t'attirent dans l'autre, et tu peux pas marcher dans ces deux directions en même temps. Et tant que tu n'as pas décidé dans quelle direction tu marches, ben tu restes sur place, puis tu te fais bouger un peu à gauche, à droite, comme ça. Les désirs de la chair, les désirs de l'esprit, ça c'est tout ce combat qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est pas juste vous, vous êtes pas des gens spéciaux. Vous êtes des bonnes personnes, vous êtes des créatures de Dieu. Dieu vous a rachetés, mais Dieu veut maintenant vous libérer pour que vous puissiez faire l'œuvre de Dieu, pour que vous soyez à votre tour capable de chasser les démons. On peut pas, si soi-même dans nos propres vies, on n'a pas réglé un certain nombre de choses, on peut pas faire cela. J'ai un ami pasteur qui m'appelle, il me dit, Werner, est-ce que tu pourrais me donner un coup de main? J'ai dit oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me dit, je dois aller prier dans une maison où, qui visiblement est hantée. Moi, je connais rien à cette histoire des esprits méchants. Je suis théologien, mais je connais rien. Est-ce que tu pourrais venir? Je sais que toi, tu connais ça un peu, tu viendrais avec moi. J'ai dit, je peux venir avec toi. C'était une vieille dame, il y avait des manifestations bizarres dans la maison, mais la vieille dame elle-même n'avait pas eu de crise dans sa vie. Alors, je l'ai écoutée. J'ai dit, avant que je prie pour la maison, j'aimerais prier pour vous, madame. Et très courtement, je lui ai prêché l'évangile. Et ensuite, j'ai dit, maintenant, je vais prier pour vous. Et après, je vais prier pour la maison. Et j'ai commencé à attaquer les esprits. Et dès que j'ai commencé à les chasser, le pasteur à côté de moi a commencé à manifester. La vieille dame, elle n'a rien compris de ce qui se passait. Mais quand je suis sorti de l'immeuble, le pasteur m'a dit, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? J'ai dit, oui, j'ai bien vu ce qui s'est passé. Il me dit, tu penses que? J'ai dit, oui, je pense que. Vous savez, vous pouvez être pasteur. Il y a plein de pasteurs et de prêtres qui auraient besoin de délivrance. Hein, je vous le dis franchement. Parce qu'on n'est pas fait différemment les uns des autres. Et il faut qu'on arrête de se mentir à soi-même en disant, non, moi je suis chrétien, tout va bien. Si tout va bien, gloire à Dieu, cherchez-vous pas des problèmes, s'il vous plaît. S'il n'y a pas de problème, n'en cherchez pas, s'il vous plaît. Il y a assez de problèmes dans le monde sans qu'on en cherche des nouveaux. Mais quand il y a des vrais problèmes, à un moment donné, il faut les mettre à la lumière. Chérie, comment est-ce que tu as été libérée de certaines choses? Comment est-ce que tu as été libérée de la colère, des bagarres intérieures que tu as eues?
Je réfléchis pour savoir à quel bout commencer. Alors, dans une période de ma vie où mes enfants étaient petits, il y avait sur moi un héritage de colère que je ne savais pas. Notre couple allait bien, on s'aimait beaucoup. Et puis, j'étais toujours une nature assez vive. Mais quand les enfants sont nés, après le deuxième enfant, j'ai pris énormément de poids. Et puis, je voulais perdre ce poids. Je suis obligée de vous raconter ça pour que vous compreniez. Et puis... j'avais reçu un avertissement de ma famille, de ma maman, mais j'ai pris des gouttes homéopathiques. Je dis pas que l'homéopathie, tout est mauvais, mais là, en l'occurrence, c'était des gouttes qui venaient d'une région où on les fabriquait, où on manipulait ces gouttes. Elles étaient très, très efficaces, mais j'ai commencé à être méchante, vraiment méchante. Et la colère a commencé à se manifester, c'était pas drôle du tout, sur mes enfants. Et je sais très bien, je parle aux dames là, je sais très bien que tu en as un problème comme ça, les hommes aussi, on le cache. Donc quand mon mari était là, je me contenais, mais quand il était plus là, quand il sortait pour travailler, souvent cet esprit se manifestait. Et puis c'était violent, puis quand on est en colère, on gère plus très bien la bouche. Vous savez comment on est capable de dire des choses terribles quand on est vraiment en colère. Et je sais, quand je le raconte dans toutes les communautés où je vais, les personnes viennent chez moi, elles disent « je suis comme toi ». Je dis des choses terribles et ensuite on pleure. Donc je faisais ça avec mes enfants qui étaient assez petits, surtout l'aîné. Et puis, je l'aimais très fort, je l'ai voulu, cet enfant. Ce n'était pas là le problème. Le problème, c'est que j'étais habitée par quelque chose qui était mauvais. Et puis, j'étais triste, j'étais malheureuse de vivre de cette façon-là. On n'avait pas connu la dimension de la libération de l'esprit, de toutes ces dimensions-là. Donc, on se débrouille comme on peut. Quand le Saint-Esprit n'a pas pu faire son travail, on se débrouille comme on peut. Alors, on a recherché la vie de l'esprit. Et puis, on a commencé à chercher Dieu, mais surtout ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'étais avec ma petite fille, je nettoyais la voiture. Elle avait 4 ans, à peu près. Et puis, elle était gentille, elle voulait m'aider, mais j'étais de nouveau dans la colère. Et puis, je l'ai menacée. Et puis, quand on est comme ça, on dit « Maman, elle en a marre ». Donc, un jour, je fous le camp, on dit ça à notre mari, on dit aux enfants « Fiche-moi la paix, sinon je m'en vais ». Puis, j'ai dit des choses comme ça. Je lui ai dit « Si tu continues comme ça, je m'en irai ». Oh, là, je l'ai dit gentiment. Hein. Et cette petite fille de 4 ans s'est redressée, m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit « Maman, tu peux partir ». Il viendra une autre dame à ta place et on lui dira « Maman, à ta place ». Et là, je suis presque tombée par terre. C'était tellement violent. J'ai dit « Seigneur, j'ai compris. C'est ton esprit qui a parlé au travers de cette fille. Mon cœur a été brisé. J'ai commencé à crier à Dieu. J'étais dans la forêt. J'ai dit « Seigneur, si je trouve pas une solution pour ma vie, je suis fichue. Je vais ficher en l'air ma famille, tout. S'il te plaît, aide-moi. » Et Dieu nous a conduits dans cette période. Il nous a conduits, on a fait venir la première chose que Dieu m'a dit, la même chose que mon mari a dit avant, « Tu as hérité un esprit de colère d'une arrière-grand-mère. » Et je me souviens très bien que quand on était enfant, il parlait de cette arrière-grand-mère qui rendait les gens fous. Elle était tellement méchante autour d'elle. Le Seigneur m'a dit, va confesser ce problème. Alors quand on a eu une rencontre avec des amis qui priaient pour la délivrance, c'était tout dans les débuts de notre vie dans l'esprit. Après, on était baptisés du Saint-Esprit. J'ai confessé ça. Et puis ce gars m'a dit, il faut que je vienne dans ta maison. Et puis, alors on l'a invité dans notre maison. Et vous savez, j'étais à cette époque totalement incapable de lever les bras devant le Seigneur. Incapable. Quand les gens louaient, je me disais, tiens, j'aimerais bien l'élever, j'arrivais pas. Et j'ai confessé ça à ces gens, et là, parmi eux, il y avait une femme qui avait un esprit de révélation. Elle m'a dit, je vois tes deux bras liés avec un cadenas. Ok. Est-ce que tu sais ce que c'est ce cadenas? Alors moi, non, pas du tout. Alors ça fait rien, on va continuer à prier. Et puis, on était là dans ce moment de prière, et tout d'un coup, elle dit, j'ai reçu la révélation. C'est homéopathie. Et là, j'ai su instantanément que c'était les gouttes que j'avais pris. On a brisé ça, on a chassé cet esprit de colère ensemble, ils ont prié pour moi. J'ai pu commencer à vivre une vie de l'esprit, après on a été baptisés du Saint-Esprit. Et ma vie a radicalement changé. La différence, j'aimerais dire ça, c'est très important, entre quelqu'un qui est habité par un esprit de colère ou quelqu'un qui parfois a une colère. Déjà, on sait très très bien, moi j'ai une femme dernièrement qui m'a dit, je sais très bien quand j'ai des colères diaboliques. On sait ce que ça veut dire, hein, quand on a des colères diaboliques. Parce qu'il y a des colères qu'on gère, parce qu'on est contrarié, mais il y a des colères qu'on ne gère pas. Et ces colères-là, c'est celles que moi j'avais. Donc, elles venaient sur moi, j'étais pas capable de dire non. Puis après, tu pleures, parce que t'as détruit tout ce qui est autour de toi. Ils ont vraiment prié pour cet esprit de colère. Et puis, toute la différence qui s'est passée, c'est que quand les situations autour de vous, elles changent pas, hein. Le monde, il change pas parce que vous êtes délivrés. La méchanceté, elle est là, les occasions de s'énerver, elles sont là. Mais tout d'un coup, j'ai réalisé dans ma tête que... Ah, j'avais une pensée qui me disait, tu veux t'énerver, tu veux rester tranquille. Ben ça, j'avais jamais connu. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est ça ta délivrance? T'as une fraction de seconde, tout d'un coup, t'as une situation là où d'habitude tu gérais pas, mais tu peux rester tranquille. Ou alors tu dis, Alléluia! Et t'as déjà pris une direction qui est différente. C'est ce que j'ai pu commencer à faire. Et puis deux fois, je me suis de nouveau énervée, vraiment. Et puis là, Dieu m'a dit instantanément, j'ai senti. Si tu veux être délivré de la colère maintenant. Moi, j'avais le privilège de vivre avec mon mari. On travaillait dans l'agriculture. On était fermier. Il m'a dit, tu vas vers lui dehors et tu vas lui dire ce que tu as dit et ce que tu as fait. Et ça, c'était terrible. J'aimais beaucoup mon mari. Je sais que ça lui faisait du mal. C'est plus facile d'aller dire où on a envie les choses qui vont pas bien. Mais quand c'est le conjoint, tout près, la honte est là. Le Saint-Esprit m'a dit, si tu veux être libre, tu le fais maintenant. Et deux fois, j'ai dû le faire. Et plus jamais. J'ai eu ces colères-là. Elles sont parties totalement. J'ai été délivrée de la colère. J'ai pu demander pardon à mes enfants avec sagesse. Faites les choses avec sagesse. J'ai prié pour que ce soit le bon moment, Dieu a donné le bon moment. Après, quand mes enfants ont grandi, on a pu pleurer ensemble, on a pu se demander pardon. Et j'ai une relation extraordinaire avec nos enfants. Et ensuite, j'ai pu les construire. Et actuellement, c'est des adultes de 40 ans, entre 36 et 40 ans. Et c'est extraordinaire de voir ce que Dieu fait. Mais reconnaissez les fragilités. J'ai tellement de personnes qui ont semblé être tellement des bons chrétiens. Puis quand je donne ce témoignage, ils viennent vers moi puis ils disent « Je dois faire quoi avec mon fils que je ne vois plus ? Comment je peux lui demander pardon ?» Après des années, parce que on a détruit avec notre langue et c'est tellement important. Si vous avez fait des choses comme ça, demandez pardon. Vous savez, demander pardon à nos enfants, vous ne perdrez jamais leur autorité. Par contre, vous la perdez si vous résistez. Si on résiste, les enfants, ils savent très très bien si on a fait juste ou si on a fait faux. On ne peut pas jouer avec ça. Et quand on leur demande pardon, ils sont prêts à nous pardonner et votre autorité, elle augmente. Vous n'êtes pas méprisé parce que vous avez mal fait et que vous demandez pardon. Par contre, si vous faites mal et que vous mentez, là, ça c'est grave. Voilà comment j'ai pu vivre un chemin de délivrance qui a été tellement important pour moi. Amen.
Merci. Je vais parler encore un instant, après quoi on va prier avec vous. On va prier pour la délivrance et je vais prier pour des guérisons. Et Dieu va guérir cet après-midi. Il y a des gens comme ça de guérison. Et je ne veux pas seulement juste prier pour votre guérison, je vais prier pour que le don de guérison, que le don de foi vienne sur vous. Amen. J'aimerais mentionner encore une ou deux écritures. Parce qu'une question qui m'est souvent posée, les gens me disent « Comment je fais pour savoir si j'ai besoin de délivrance ?» Ou parfois, ils ne me disent pas « Si », ils me disent « Est-ce que tu penses que j'ai besoin de délivrance ?» Je leur dis « C'est pas moi qui vais te le dire, c'est toi qui vas me le dire. » Et ils me disent « Comment je fais pour savoir ?» Je dis « Est-ce que tu as une Bible ?» Ils me disent « Oui ». Alors je dis « On va l'ouvrir dans Galates, chapitre 5, verset 22. « Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté. » C'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. J'ai dit, s'il y a ces choses-là dans ta vie, cherche-toi pas des problèmes. Mais si au lieu de la douceur, il y a de la colère, si au lieu de la joie, il y a de la tristesse, si au lieu de l'amour, il y a de la haine, alors c'est qu'il y a un problème. Alors tu discernes par toi-même, tu regardes l'Écriture, puis tu dis, mais est-ce que le fruit de l'Esprit, il est en train de grandir en moi? Ou est-ce que ce fruit, il est absent? Est-ce qu'il est en moi? Parce que dans Galates 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22, 23, il est parlé du fruit de la chair, puis il est parlé du fruit de l'esprit. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, peu à peu, il y a un fruit qui va se manifester. Et il est décrit dans Galates 5, 22. Et ce que je dis souvent aux gens, examine-toi, toi-même, et puis tu regardes. Ce n'est pas les autres qui doivent dire, moi je pense que toi, sœur, tu as besoin de la délivrance. Mais c'est quoi cette histoire-là? Tu examines par toi-même et tu dis, Seigneur, si tout va bien dans ta vie, rends gloire à Dieu. Que tu aies des luttes d'êtres humains, ou parfois on est plus heureux, parfois un peu plus triste, c'est des choses normales. Qu'il y ait des bagarres entre les natures de la chair, nature de l'esprit, c'est des choses normales. On peut pas chasser la chair. Il y a eu beaucoup de confusion dans ce domaine-là. Beaucoup de gens pensaient qu'il y a de la délivrance pour être délivré de la nature charnelle. La nature charnelle, il fallait au pied de la croix. Et dire, Seigneur, là j'ai besoin de ta grâce contre ma nature charnelle. Mais parfois la chair, les désirs de la chair et les esprits méchants se liguent. Et s'il y a des blessures à l'intérieur de vous, l'ennemi va venir se nourrir de ces blessures. L'une des choses les plus communes dans la délivrance, et je veux juste raconter ça parce qu'on pourrait parler pendant des heures de ce domaine-là, l'une des choses les plus courantes, c'est que chacun et chacune d'entre nous, personne n'a été aimé d'une façon parfaite. Certains ont un amour qui est correct, du bon, ben mes parents ils m'ont aimé, ça va, je fais avec ça, ça va. Mais la problématique, c'est que beaucoup d'êtres humains, vous, mais aussi tous ceux qui sont dehors, tous ceux qui ne sont pas forcément dans la foi, ont subi une forme de rejet. Parfois, le rejet, il peut être prénatal, pendant que le bébé est dans le ventre de la mère, parce que voilà que le bébé, il n'était pas désiré. Et la maman ou le papa tempeste après ce bébé qui va venir, puis encore une bouche de plus à nourrir, etc. Et on amène des problèmes du rejet prénatal, c'est-à-dire avant la naissance. Mais le rejet peut être après la naissance, parce que l'enfant, voilà qu'il n'est pas tout à fait du sexe qu'on aurait souhaité, on aurait aimé avoir un garçon, on a une fille, on aurait aimé avoir une fille, on a un garçon, etc., etc. Et voilà qu'il ressemble à telle personne de la famille qui nous énerve. Je sais que c'est pas arrivé chez vous, mais et tout à coup, on dit, mais il m'énerve, puis il a le même caractère que son père, qui a déjà crouille caractère, puis voilà que mon fiston a le même caractère que lui, mais que c'était bête, mais que c'était stupide, et c'est le rejet. Le rejet, derrière le rejet, il y a un esprit qui vient, C'est très subtil. Quand on est rejeté, il y a un esprit qui vient que nous appelons l'esprit de rejet. Si un enfant a été rejeté très jeune, vous allez commencer à voir une deuxième chose apparaître. Il va vivre avec la peur du rejet. La peur du rejet, ça fait quoi? La peur du rejet, c'est j'ai enfin trouvé un ami, toi par exemple mon frère, j'ai trouvé un ami. Et moi, je me dis, j'ai peur, faut pas que je le perde. Parce qu'intérieurement, il y a du rejet. Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va rester mon ami? Alors je dis, écoute, on fait quelque chose. Mon ami, je te donne ma montre, d'accord? Comme ça, tu restes mon ami pour toujours. T'es d'accord, hein? Tu me promets, hein? Et puis il me dit, oui, donne-moi ta montre, je te promets. Puis le lendemain, ben, il me dit, mais de toute façon, tu es un imbécile, va te faire voir, etc. C'est le rejet. Et on essaye, quand on a vécu le rejet, on cherche à acheter l'amitié. Et ça marche jamais. Jamais longtemps. Parfois, on peut donner un peu d'argent, mais ça marche pas. Et l'étape suivante, et je sais que parmi vous, il y en a, l'étape suivante avec le rejet, c'est que on se rejette soi-même. Je ne m'aime pas. Je me regarde dans le miroir et je me trouve tous les défauts du monde, même si je suis une personne tout à fait normale. Ça, c'est l'effet du rejet. Et les esprits méchants, ça fonctionne de la manière suivante. Quand il y a un esprit qui a pu rentrer à quelque part, il essaye toujours d'ouvrir la porte à d'autres esprits. L'amertume, le ressentiment, le non-pardon, la haine, la tristesse, le tourment, l'insécurité, l'indécision, etc., sont des esprits méchants qui vont chercher à nous asservir peu à peu. C'est la raison pour laquelle il est important de pardonner, par exemple. Tant qu'il y a du non-pardon, parce que vous ne choisissez pas vraiment de pardonner, le pardon, c'est pas tout simple, je crois, en avoir parlé l'année dernière fois que je suis venu, hein, l'importance de pardonner. Et parfois, on dit, mais j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Non, non, il faut poursuivre. Il faut dire, Seigneur, je choisis de pardonner. Tu pardonnes quoi et tu pardonnes à qui? Décide. Peut-être tu fais même un papier. Seigneur, aujourd'hui, peut-être ton papa ou ta maman, elle est peut-être défunte, mais dire, aujourd'hui, je choisis de pardonner à mon père, il m'a fait ça, puis il m'a dit ça, mais aujourd'hui, je choisis de lui pardonner. Et des pensées intérieures vont continuer à venir. La blessure intérieure, elle parle à l'intérieur de vous. C'est normal. Mais quand la blessure parle, et une fois que tu as choisi de pardonner, tu commences à bénir la personne qui t'a offensé. Moi, je suis en train de faire ça aujourd'hui. Parce que ce matin, il y a quelqu'un qui m'a volé mon porte-monnaie. Je n'ai plus 4 sous dans ma poche. J'avais environ 500 euros, toutes mes cartes de crédit, mon permis, mes cartes d'identité, toutes mes affaires sont loin. Je me suis fait voler ce matin dans le train. Alors, on a le choix de dire, Seigneur, pourvu que cet homme, tu le punisses, etc. Ça, c'est la réaction de la chair. Ça, c'est la première réaction, hein, la chair qui dit, Seigneur, toi tu sais où il est, tu lui tires l'oreille puis tu tires pour que ça fasse mal. Dire Seigneur, ben voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas encore la fin du monde pour autant. Et puis Seigneur, ben on choisit de bénir cette personne, puis c'est toi qui t'en occupes, puis on laisse Dieu s'en occuper. Est-ce que c'est facile? Non, c'est embêtant. Mais on le fait parce qu'en pourquoi Jésus nous dit bénissez vos ennemis? Parce que si on bénit pas nos ennemis, on va laisser la place à l'amertume, au ressentiment et à la haine. C'est pour ça qu'on doit bénir nos ennemis. Et j'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs, bénissez vos ennemis pour que l'ennemi ne puisse pas vous garder captif d'aucune manière. Ça va? Donc c'est vous qui discernez si vous avez besoin de délivrance ou pas. Il n'y a pas à demander aux autres de dire « dis-moi si tu penses que », mais vous décidez. Il y a un certain nombre de problèmes, je ne vais peut-être pas les énoncer ici. J'aimerais mentionner une parole qui est magnifique, avec laquelle je me suis personnellement bagarré intérieurement. Une parole de l'Écriture qui est 2 Corinthiens 5, 17. C'est une parole extraordinaire. Cette parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est pas beau, ça? C'est beau, mais moi, je ne le comprenais pas. Je ne sais pas si vous le comprenez vraiment, parce que je disais, mais c'est pas vrai. L'apôtre Paul dit, si quelqu'un est en Christ, moi, je suis en Christ, j'étais croyant, j'étais engagé en Christ, j'ai été rempli du Saint-Esprit. Parole qui disait, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et beaucoup de gens ont utilisé ce texte de l'Écriture contre la délivrance. Jusqu'au moment où Dieu m'éclaire par rapport à ce texte, où Dieu me dit c'est une réalité spirituelle, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création, nous sommes une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées, mais la réalité c'est que notre humanité, pour l'instant, se poursuit. Il y a une réalité spirituelle où nous sommes rachetés, nous sommes pleinement enfants de Dieu. La réalité, pour l'instant, nous vivons dans un corps qui parfois fait mal, qui parfois où il y a des tourments, qui parfois où l'ennemi, au lieu de laisser le Saint-Esprit nous habiter, où c'est l'ennemi qui cherche à vouloir nous habiter. Donc c'est une parole magnifique, mais il ne faut pas l'utiliser contre la délivrance et il ne faut pas se cacher derrière des versets bibliques pour dire « moi j'ai pas besoin de délivrance, si tu n'en as pas besoin, gloire à Dieu, si tu en as besoin, confesse tes péchés, demande de l'aide, crie à Dieu ». On peut aussi faire de l'autodélivrance, une fois qu'on est un tout petit peu fort dans la foi, on peut aller tout seul dans sa chambre, on peut commencer à se bagarrer contre certaines choses qui sont à l'intérieur de nous en disant « maintenant ça sort de ma vie au nom de Jésus ». Et le plus souvent, les esprits méchants ils sortent ici.
par le souffle. Il n'y a pas besoin de hurler, il n'y a pas besoin de crier, il n'y a pas forcément besoin de tomber. J'ai vu beaucoup de gens tomber, beaucoup. Mais je dis aux gens, je ne veux pas que vous laissiez l'ennemi vous manipuler. C'est vous qui allez le maintenir dominé, qui allez dominer. Vous allez faire sortir les esprits méchants. Et quand on a confessé ce qui a donné le droit à l'ennemi sur nos vies, les esprits partent facilement. Quand on chasse des esprits où ils ont un droit légal sur nos vies, les démons se manifestent. Parfois, les démons parlent et puis on n'a pas un bon résultat. Donc, je ne cherche absolument pas des manifestations. Je cherche qu'on soit vrai et authentique. Quand les gens ont confessé leur péché, qu'ils ont vidé le sac, pas le dessus du sac, mais vidé le sac, je vous dis que les esprits n'ont aucune chance. Tant qu'il y a des choses cachées dans vos vies, vous dites ça, je ne l'avouerai jamais à personne. Parce que si les gens le savent, déjà, vous n'êtes pas censé avouer vos péchés devant monsieur et madame tout le monde. Confessez vos péchés à Dieu, éventuellement à une personne en qui vous avez une pleine confiance, peut-être un prêtre, un pasteur, ou un frère et sœur de la foi. Parfois, c'est bien de pouvoir faire les choses en présence de quelqu'un, ça va donner de la force à l'événement. Il faut le faire. Toutes les choses qu'on tient cachées en disant ça, je ne le dirai jamais à personne, l'ennemi, il va vous tenir par ce bout-là. Donc, il faut se délier, il faut chasser l'ennemi, et je crois personnellement que beaucoup de maladies, que beaucoup d'infirmités sont liées à des réalités d'ordre spirituel. La maladie ne vient jamais de Dieu. Je pourrais vous citer des tas de textes tels que Job 2, verset 7. Hein, où il est dit que Satan a frappé Job d'un ulcère malin. Quand on voit l'histoire de cette femme, hein, cette femme qui était tourmentée, c'est pas Dieu. Luc 13, verset, à partir du verset 11 ou 10. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans, car elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et j'aimerais déclarer qu'on peut être délivré de certaines de nos infirmités. Il y a aussi parfois des maladies qui suivent les générations. Les mêmes douleurs, les mêmes problèmes reviennent d'une génération à la génération suivante. Je vous encourage de faire partie de cette génération qui va dire, moi je vais mettre fin à la malédiction et je vais marcher dans cette nouveauté de vie. Amen. Et puis Jésus dit, cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, verset 16 de Luc 13, cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Donc Jésus est un Dieu de délivrance, Jésus est un Dieu de guérison. Je vous encourage à vous positionner et à résister à l'ennemi d'une façon claire et déterminée. Les étapes qui conduisent à la délivrance, c'est l'honnêteté, c'est l'humilité, c'est le renoncement, c'est le pardon, et c'est une prière de combat où vous vous positionnez et vous commencez à opposer une résistance et vous ne laissez pas l'ennemi faire ce qu'il veut dans vos vies. Vous, c'est vous qui pilotez votre vie. C'est vous qui pilotez votre vie. S'il y a des choses qui vous échappent, que vous n'arrivez pas à piloter dans vos vies, vous devez vous poser une question. Est-ce qu'il y a un esprit méchant qui perd parfois nous pilote? Soyons honnêtes les uns avec les autres. Je parle aux hommes maintenant, à tout petit coup. Nous les hommes, combien de fois on a vu que c'était plus nous qui pilotions? Quand on est en colère, quand on est fâché, parce que quelqu'un nous a coupé la route en voiture alors qu'on était pressé. Ou bien qu'il y a ceci ou cela qui casse au moment où il fallait justement en avoir besoin. Qui c'est qui pilote ta vie dans ces moments-là? Permets au Saint-Esprit de faire une œuvre en profondeur dans ta vie. J'aimerais mentionner une dernière chose qui a souvent fait peur aux chrétiens. C'est cette parole de Jésus dans Matthieu 12, à partir du verset 43. Jésus parle d'un homme qui est libéré d'un esprit, et puis il dit, la maison de cet homme, il parle de son corps, il parle pas de la maison avec un toit, il parle de son corps, il dit, la maison de cet homme était vide, balayée et ornée. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 12, à partir du verset 43. Et Jésus raconte une histoire assez surprenante. Il dit, l'esprit de cet homme est allé dans les lieux arides, et il est allé chercher cet esprit plus méchant que lui, et il est revenu dans la maison. Alors certains mon chrétien me disent c'est très dangereux de faire la délivrance parce qu'il y a des démons plus forts qui viennent encore contre toi. Non. Où est l'énigme dans cette histoire? La maison était vide. Et le diable va toujours venir regarder si la maison elle est habitée ou pas. Habitée par qui? Par le Saint-Esprit. Quand on chasse des esprits méchants, il faut laisser l'Esprit Saint et les choses de l'Esprit Saint venir nous habiter. Plus on laissera le Saint-Esprit nous habiter, moins on aura de problèmes avec l'adversaire. Laissez-lui prendre la place. Invitez-le à prendre contrôle dans ce domaine-là. Le Saint-Esprit ne nous domine pas. Il ne nous contrôle pas. Il coopère avec nous. Et d'une certaine manière, je dirais que le Saint-Esprit est un gentleman. Il nous laisse toujours le choix de la décision.